Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Dangerosité des aliments ultra transformés, scandale Lactalis, présence de pesticides dans nos assiettes, les scandales ou études pointant du doigt la présence d'éléments dangereux dans notre nourriture s'accumulent. Les soupçons qui pèsent sur les aliments industriels très gras, très sucrés, très salés ne sont pas nouveaux, mais leur toxicité serait démontrée depuis le 15 février dernier dans une étude française qui fait le lien entre la consommation de ce type d'aliments et le risque de cancer. Que pouvons-nous encore manger, se nourrir? Est-il devenu dangereux? Pour tenter de faire le point à ce sujet, je suis en compagnie de Bruno Parmentier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et consultant sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Vous avez notamment publié « Manger tous et bien au seuil ». À côté de vous, Marie-Christine Boutron-Ruault. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM et vice-présidente du comité d'experts en nutrition humaine de l'ANSES. Tout d'abord, une question. J'ai lu donc qu'il ne fallait surtout pas manger de nourriture industrielle. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?
Alors, comme d'habitude, c'est pas rien ou tout. C'est les personnes qui consomment le plus d'une alimentation de type industriel, qu'on va appeler des aliments ultra transformés, sont à risque accru, selon cette étude, de cancer globalement. Et comme il s'agit surtout de femmes, surtout de cancer du sein. Voilà.
Pourquoi de femmes ?
Parce que ce sont souvent les femmes qui répondent le mieux au questionnaire et notamment donc dans cette étude, la proportion de femmes est importante. Et d'autre part, le cancer du sein est de très loin le cancer le plus fréquent.
Et lorsque l'on parle d'aliments ultra transformés, parce que c'est ça en fait qui pose problème, que faut-il voir dans cette catégorie ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Alors... quand vous faites cuire vous-même vos aliments, vous les transformez, forcément. Mais vous mettez finalement des choses, des aliments simples. Hein, vous mettez de l'huile, du beurre, un peu de sel, un peu d'épices. Voilà, là vous les transformez. Quand vous faites appel à l'industrie, pour des raisons de conservation, pour des raisons de palatabilité, pour des raisons de présence.
Palatabilité.
Oui, pour que ça soit plus séduisant au goût, dirons-nous. On rajoute tout un tas de choses, et puis aussi pour des questions d'économie, parce que souvent les additifs permettent d'augmenter le poids de l'aliment, donc de le faire payer plus cher finalement au poids d'aliments nobles.
Bon, alors je vais vous donner un exemple. Si je fais par exemple un risotto à la maison, est-ce que c'est un aliment ultra transformé ?
Non. Ça dépend ce que vous mettez dedans. Mais si vous mettez votre riz, si vous faites vous-même votre bouillon, vous rajoutez un peu de vin blanc, de parmesan, etc. C'est un aliment transformé délicieux, mais il n'est pas ultra transformé.
Et si je mets du bouillon cube, par exemple, avec plein de glutamate à l'intérieur ?
Alors, il prend une tournure un peu plus ultra transformée. Maintenant, le vrai ultra transformé, c'est celui qui est tout prêt, vendu par l'industrie comme tel, et dans lequel il y a non seulement du bouillon cube et un peu de glutamate, mais aussi des additifs, des conservateurs, des colorants,
Alors, j'ai lu les recensions donc de cette étude et je me demande du coup, Marie-Christine Boutron-Ruault, pourquoi ces aliments ultra transformés donnent-ils le cancer ? Est-ce lié donc à ces additifs ? Est-ce lié au fait qu'ils sont trop chargés, par exemple en sel, puisque on évoque beaucoup la présence en trop grand nombre de sel dans ces aliments ? Ou bien encore, est-ce lié, je ne sais pas moi, au mode de vie, par exemple, des personnes qui ont recours à ces aliments, qui auraient, c'est vraiment une hypothèse de ma part, une vie par exemple plus stressante, moins apaisée que ceux qui prennent le temps par exemple de faire leur potage eux-mêmes.
Alors vous soulevez le point essentiel. On est là dans une étude d'observation, c'est-à-dire que on constate que les personnes qui consomment le plus de ces aliments ont le risque le plus élevé. Il est maintenant très important de comprendre pourquoi. Et puis je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, ça ne donne pas le cancer. C'est-à-dire que le fait de vieillir, au fond, donne le cancer. C'est un vieillissement relativement naturel de nos cellules. Ce qui est important, c'est la façon dont notre organisme le contrôle. Et si finalement, on fait un cancer à 115 ans, c'est pas très grave. voyez. Donc, aucun, et ça c'est très important parce que dans on va dire dans l'imaginaire collectif, il y a des choses qui vous donnent la maladie. C'est plutôt une attitude générale vis-à-vis de sa santé et vis-à-vis de ses comportements. Et comme vous le soulignez, les personnes qui mangent beaucoup d'aliments ultra transformés sont celles qui ont souvent un mode de vie stressant, peu de temps pour faire de l'activité physique. Il y a tout un tas de comportements qui se greffent autour pour lesquels il est bien difficile de savoir exactement lequel est responsable.
Bon, mais vous qui êtes spécialiste de santé des populations, Marie-Christine Boutron-Ruault, est-ce que vous êtes quand même capable de dire qu'il y a des substances dont il faudrait se priver d'abord parce qu'elles n'ont pas d'utilité et puis ensuite parce qu'elles peuvent être nocives, même si le fait de dire donner le cancer, ça vous paraît impropre. Et si je vous dis par exemple que le glutamate doit être écarté, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, effectivement, il y a un certain nombre de substances que nous consommons avec nos aliments, soit volontairement, soit involontairement. Notamment, par exemple, on sait que le riz peut être assez fortement contaminé avec de l'arsenic inorganique qui lui-même est un cancérogène. Donc,
Le riz. Comment sait-on, par exemple, que le riz qu'on achète est dénué d'arsenic ?
Alors, c'est tout le travail qu'a fait l'ANSES pour donner des recommandations en matière de santé et en matière d'alimentation, parce que tous les aliments, ou presque, ont certains petits inconvénients plus ou moins importants qui font partie de la façon dont ils ont été cultivés, dont ils ont été finalement abrités des pathogènes, etc. Et donc, par exemple, on va recommander sur le poisson qui est considéré comme un aliment santé, eh bien, de ne consommer qu'une fois par semaine du poisson gras et surtout des poissons de début de chaîne, par exemple des sardines ou des maquereaux plutôt que des prédateurs, vous voyez, parce que ça concentre les métaux lourds, les pesticides, etc.
Mais lorsque vous dites, par exemple, que le riz peut contenir de l'arsenic, et il y a immédiatement une panique qui s'empare de tout être humain qui mange du riz, et à la surface de la planète, il y en a beaucoup, et du coup, on se dit, mais qu'est-ce que l'on peut encore manger ?
Alors, tout est une question de dose, bien sûr.
Même une petite dose d'arsenic est problématique.
Non, pas tant que ça.
Ah bon ?
Donc voilà, c'est une question de dose et d'équilibre des aliments entre eux. Il y a, par exemple, il y a des travaux en cours pour montrer que si vous mangez certaines charcuteries, vous savez, à une époque, on a été très très inquiet de la déclaration de la charcuterie comme un aliment cancérogène certain. Eh bien, on s'aperçoit que si on a à côté une consommation très importante de fruits et de légumes riches en antioxydants variés, on diminue le risque associé à ces produits. Donc, tout est une question d'équilibre des aliments entre eux et dans le mode de cuisson également. Et c'est vrai que lorsque on se rabat uniquement sur des aliments, ou presque uniquement sur des aliments industriels, on perd une grande partie des qualités de ces aliments.
Bruno Parmentier, votre point de vue.
Oui, prenons du recul. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on augmente l'espérance de vie des Français de 3 à 4 mois tous les ans. On n'est jamais mort aussi vieux. Et le mot sécurité alimentaire, il est très ambigu. En fait, il révèle 3 âges de la sécurité ou 3 manières. Alors, pendant des millénaires, la sécurité alimentaire, ça voulait dire quelque chose de très simple, est-ce que je vais manger demain ? Pendant 2000 ans, on a récité « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est bien que ça manquait. Et ça continue à être le principal problème de sécurité alimentaire dans le monde. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, depuis plus d'un siècle, 800 millions de gens qui se couchent le soir en ayant faim. Plus 1 milliard de gens dont la santé est très dégradée parce qu'ils ne mangent qu'une seule chose, par exemple que du riz. Mais heureusement, en France et en Europe, ça s'est terminé. Alors ensuite, on est passé à un deuxième âge. Le deuxième âge, c'est « Vais-je mourir après souper ?» Et là aussi, on en sort. Les intoxications alimentaires, il y en avait énormément, et on mourait beaucoup de maladies infectieuses.
Là, il faut donner des chiffres pour
qu'on ait des idées. Oui, mais par exemple, dans les années 50, c'était à peu près 15 000 morts par intoxication alimentaire. Maintenant, on estime
par
que
an.
Par an. Maintenant, on estime que c'est autour de 300. Mais ces 300, c'est pas l'agro-industrie qui nous tue, c'est pas McDonald's qui nous tue, etc. C'est pas Carrefour, c'est des aliments qui ont été restés trop longtemps dans le frigidaire. C'est nous auto-intoxiquons.
Vous voulez dire que dans le cas des intoxications alimentaires, pour que je précise ce que vous venez de dire, ça n'est pas McDonald's qui nous tue directement. Dans d'autres cas, c'est peut-être McDonald's.
Non, mais ça, c'est le deuxième âge. Le deuxième âge.
Christine Boutroux-Roux, on n'a pas l'air d'être d'accord.
Il faut quand même dire, plus personne ne meurt après souper. C'est bien pour ça que, dorénavant, 30 gamins hospitalisés pour avoir la diarrhée, ça fait l'ouverture des 20 heures pendant 8 jours de suite. Ça veut bien dire que les gamins ne meurent plus. En 1900, c'était 15% des gamins qui mouraient dans la première année en France. En 1950, c'était encore 5%. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop, mais c'est 0,3%, 3 pour 1000. Et donc, quelque part, il y a une différence entre le risque réel et le risque perçu. C'est parce que on ne meurt plus jamais que maintenant la diarrhée devient importante.
Alors, ça, on le comprend bien, Bruno Parmentier, mais j'ai lu, par exemple, qu'aux États-Unis, l'espérance de vie diminuait et on se dit aujourd'hui qu'il y a une grande différence entre des gens qui peuvent se permettre d'avoir une alimentation également saine, équilibrée, peut-être bio, et d'autres qui sont conduits à se nourrir avec de la nourriture industrielle, dont les défauts ont été évoqués par la personne qui est en votre compagnie dans ce studio, Marie-Christine Boutroux-Roux.
Du coup, effectivement, on arrive, nous, au troisième âge, parce que les deux premiers âges, quasiment, sont résolus. Même si on a très peur du deuxième âge, on va tous nous empoisonner. Le troisième âge, c'est « vais-je mourir à petit feu ? Vais-je finir obèse, cancéreux, etc. ?» Et effectivement, on meurt beaucoup moins de septicémie, de tuberculose, d'affections intestinales, etc. Mais on finit par mourir d'obésité, d'artériosclérose et de cancer. Et finalement, on meurt de maladies de la vieillesse et de maladies de l'excès. Et par exemple, enfin moi je ne suis pas docteur, mais grosso modo, toutes ces maladies, c'est le mode de vie. Et aucun aliment n'est un poison. Mais plus on va manger d'aliments bourrés de colorants, arômes, exhausteurs de goût, édulcorants, antioxydants, conservateurs, émulsifiants, acidifiants, anti-moussants, gélifiants, épaississants, affermissants, agents d'enrobage, etc., plus on risque d'être malade à terme.
Marie-Christine Boutron-Ruot, votre point de vue.
Alors, c'est vrai qu'on est passé des problèmes infectieux à des problèmes plutôt de maladies chroniques. Donc on a en grande partie, c'est pas complètement réglé, mais en grande partie réglé, ce problème d'infection, et donc en particulier d'infection via le vecteur alimentaire. Mais on est plus maintenant dans un problème effectivement de déséquilibre global de l'alimentation, et on voit bien qu'il y a quand même une volonté de la population de retrouver cet équilibre. Et alors, on va se retrouver dans des grands extrêmes, des gens qui font un peu n'importe quoi avec leur alimentation parce qu'ils n'ont plus aucune idée. Il y a eu une transmission qui s'est un peu perdue quand même. Ils n'ont plus vraiment d'idée de ce qui est bon pour se nourrir. Et de l'autre côté, vous allez avoir des jeunes orthorexiques, c'est-à-dire que ils vont supprimer, on va voir la mode du sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre, sans etc., avec quelque chose d'extrêmement rigide où vous êtes fusillé du regard si vous mangez un gâteau en présence d'une de ces personnes un peu
certaines... on a tous des exemples en tête et effectivement on se dit que aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué d'inviter des gens à manger. Chacun a son régime alimentaire propre avec vraiment des spécificités de plus en plus étonnantes. Mais bon, indépendamment du fait que lorsque vous décidez de manger sans, alors sans gluten, sans sel, sans viande, bon, vous pouvez vous priver d'un plaisir. Indépendamment de ça, est-ce que c'est dangereux ?
Alors, ça peut... Enfin, il faut en tout cas bien connaître les limites, notamment les végétaliens, qu'on appelle les véganes, aux États-Unis.
Et qui sont de plus en plus nombreux.
Qui sont de plus en plus nombreux, manquent totalement de vitamine B12, puisqu'elle n'est apportée que par les produits animaux. Donc, ces gens doivent se complémenter avec de la vitamine B12. Quand ils ont cette culture, ils le savent. Et ils le font. Maintenant, s'ils se mettent, et comme beaucoup de jeunes, se mettent à ces régimes sans trop savoir où ils vont, il y a un vrai danger de manquer d'un certain nombre de vitamines et de minéraux.
Bruno Parmentier.
Je crois qu'on ne se gourre pas en disant deux choses. D'une part, il faut manger un peu de tout, mais jamais beaucoup, jamais trop. Et deuxièmement, plus on prend des produits naturels et sains, mieux on se porte. Il n'y a rien de mieux qu'une soupe de légumes de saison le soir. C'est bien meilleur pour la santé que des lasagnes surgelées. D'ailleurs, pourquoi des lasagnes surgelées? On a déjà mangé de la viande à midi. Pourquoi manger de la viande le soir?
Je peux vous expliquer pourquoi on mange des lasagnes surgelées.
Oui, non mais il faut se rendre compte aussi qu'on ne dépense plus rien, ni en temps, ni en argent pour manger. Il y a encore 30 ou 40 ans, on dépensait plus de 30, presque 40% de ses revenus pour manger. Aujourd'hui, on dépense 14%. Ça peut être pire, aux États-Unis, c'est 7% de ses revenus. Mais moi, ça me fait pas du tout envie. À partir de maintenant, moins on va dépenser pour manger, plus on va dépenser pour sa santé. Et donc, il faut se dire, manger, c'est quelque chose d'important. C'est normal de dépenser un peu plus d'argent et un peu plus de temps pour bien se nourrir.
On se retrouve Bruno Parmentier et Marie-Christine Boutron-Ruault dans une vingtaine de minutes pour faire le point sur ces différentes études qui nous interdiraient de manger certaines choses ou nous inciteraient à en manger d'autres. Elle a terminé ses cookies. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal à 8h.